franceinter.fr.
Et d'immenses réserves de métaux rares découvertes au large du Japon, donc aujourd'hui à la une de la science. Dans une étude publiée la semaine dernière, des chercheurs japonais pensent avoir mis la main sur un gisement sous-marin quasi inépuisable de métaux rares. Situé à 2000 km au large des côtes japonaises, ces ressources pourraient changer la donne énergétique dans les prochaines années, si évidemment on parvient à extraire ces métaux rares. Axel, on en discute avec un confrère spécialiste du sujet.
Oui Mathieu, nous sommes avec le journaliste et réalisateur Guillaume Pitron. Bonjour à vous.
Bonjour Axel Villard.
Vous êtes l'auteur du documentaire « La sale guerre des terres rares » en 2012 et on va commencer par en écouter un petit extrait.
Nous avons estimé que les réserves de terres rares qui se trouvent sous l'océan sont environ 800 fois supérieures aux terres rares que nous pouvons trouver aujourd'hui à la surface de la Terre. À titre personnel, j'ai bon espoir que dans un futur proche, nous allons découvrir des réserves de terres rares au large du Japon et qu'il sera possible de les exploiter. Mais mon espoir est que cela deviendra possible d'ici 10 ans ou 20 ans.
Alors cette interview, vous l'avez filmée en 2011. Aujourd'hui, ces mêmes chercheurs annoncent la découverte de ces gisements immenses. On va y revenir. Expliquez-nous pour commencer pourquoi ces métaux rares font l'objet de tant de convoitises. Quel est l'enjeu derrière cette découverte ?
Ces métaux rares qu'on appelle les terres rares, une sous-classe de métaux rares, au nom tout à fait poétique, samarium, terbium, yttrium, praséodyme, etc. Ils sont indispensables pour les technologies vertes et pour les technologies numériques. Ce sont des métaux qui sont dotés de super pouvoirs, si je puis dire. Et grâce à eux, toutes les technologies vertes et numériques du quotidien sont plus puissantes, plus efficientes. On ne peut pas passer une seule journée sans utiliser, d'une façon ou d'une autre, ces terres rares.
Pourquoi on va les chercher sous la mer ? On n'en a pas assez à la surface, c'est ça le problème ?
En fait, pour le moment, on ne va pas les chercher sous la mer. On espère un jour aller le faire. Aujourd'hui, on va les chercher sur Terre. Simplement, effectivement, les ressources s'épuisent potentiellement. Elles s'épuisent. Certaines terres rares dites lourdes, on sait déjà qu'il y a des risques de pénurie. Donc l'idée, c'est d'étendre le domaine de la mine, si je puis dire, et d'aller chercher au-delà, jusque dans les océans. Et puis pour le Japon, qui est très dépendant de la Chine pour l'exploitation et la commercialisation de ces terres rares, souhaite finalement être plus indépendant dans ses propres approvisionnements. Et c'est pour ça que le Japon annonce découvrir des gisements qui se trouvent dans ses zones économiques exclusives, ce qui fait qu'il pourrait ne plus dépendre demain des approvisionnements chinois.
Ouais, la Chine qui tient le monde à bout de bras avec ses métaux rares, justement.
La Chine qui détient 80 à 95% de l'exploitation et de la commercialisation des terres rares. C'est une OPEP sous stéroïdes, si je puis dire. Et aujourd'hui, la question, c'est comment on fait pour échapper à cette emprise chinoise. Et les océans, c'est peut-être l'une des clés de la solution.
Et si cette annonce japonaise est tant commentée, c'est parce que les quantités sont très importantes. Avec quoi on peut comparer pour se rendre compte un peu de ce qu'ont découvert ces Japonais ?
Ce que dit l'étude, qui a été publiée la semaine dernière, c'est que pour certaines terres rares, se trouvent dans ce fameux gisement de Minami Torishima, jusqu'à 780 ans de demande intérieure pour le Japon. Donc Japon est à l'abri du besoin, si je puis dire, en tout cas des approvisionnements chinois extérieurs pour près de 800 ans. Donc c'est dire à quel point cette annonce est potentiellement importante.
Mais avec une variété de métaux rares, justement ?
Oui, alors ces terres rares, il y en a 17. Donc il y a de l'europium, du terbium, du samarium. Donc on peut toutes les citer. Certaines sont plus importantes que d'autres dans ces nodules polymétalliques. C'est le nom de ces gisements que l'on trouve, de ces matières que l'on trouve au fond des océans et desquelles on peut extraire justement ces fameuses terres rares.
Oui, les chercheurs parlent aussi de boue sous-marine. Ça ressemble à quoi exactement ces gisements ? Ça affleure le fond ?
Ça affleure le fond. Pas besoin d'aller extraire ces terres rares comme sur Terre en creusant des dizaines ou des centaines de mètres. Donc effectivement, c'est plus simple. Il suffit de racler, si je puis dire, de ratisser. Simplement, avant de ratisser, il faut déjà envoyer une sonde, descendre plusieurs milliers de mètres de profondeur, 6000, 7000 mètres de profondeur. Donc ce qui est simple d'un côté, il suffit juste de ratisser. C'est plus compliqué de l'autre parce qu'il faut les outils et les technologies nécessaires pour descendre jusqu'à une telle profondeur.
Ça peut ne pas être rentable d'aller les chercher, c'est ça que vous voulez dire ?
Ça peut ne pas être rentable par rapport, alors tout dépend en fait du coût, du prix de la terre rare extraite sur le sol, puisque tout est question de compétitivité, et puis ça peut, tout dépend aussi du coût du minerai, du marché. Si le minerai vaut 10 fois plus, certaines technologies sont rentables, s'il vaut 10 fois moins, certaines technologies ne sont pas rentables, donc en fait tout est question de marché, mais si demain nous avons toujours plus besoin de terres rares, ce qui est le cas, les besoins sont exponentiels, si il y a des risques de pénurie, eh bien ça veut dire que le coût de ces minerais va augmenter, et que demain, des technologies qui aujourd'hui ne sont pas nécessairement rentables pour aller chercher ces terres rares sous les océans seront rentables.
Est-ce qu'écologiquement, on peut en parler, l'exploitation de fonds sous-marins comme ça, c'est soutenable ?
Qui sait répondre à cette question de manière définitive ? Ce qui est sûr, c'est que quand vous allez chercher la régénération des écosystèmes à une telle profondeur, c'est extrêmement lent. Donc le moindre dégât que vous produisez à une telle profondeur, eh bien en réalité il faut des siècles, des décennies, voire des siècles pour les réparer. Donc ce n'est jamais vert et ce n'est jamais propre d'aller extraire ces métaux qui servent à une transition verte. Mmh. Simplement, il va falloir effectivement un trésor d'ingéniosité et d'innovation pour être capable de faire le moins de dégâts possible. Comment est-ce que ça se passera dans 10, 20 ans, 30 ans, qu'on oseront les bonnes technologies? Je ne sais pas.
On en avait discuté d'ailleurs avec vous à ce micro, hein, Guillaume Pitron. Oui. Quand on fait le calcul, c'est quand on prend la chaîne vraiment de bout en bout, hein, depuis l'extraction des métaux jusqu'à ensuite, par exemple, un véhicule autonome qui pourrait fonctionner grâce à ces métaux rares, on se rend compte qu'on n'est pas du tout en économie d'énergie et de dépenses énergétiques. Hein.
Il se passe que nous voulons remplacer le pétrole par d'autres technologies utilisatrices, d'autres matières premières, et que nous déplaçons le problème et que nous nous retrouvons avec d'autres matières premières à les extraire, avec un coût énergétique que l'on ne voit pas, parce que l'extraction de ces matières premières se trouve pas en France ni forcément en Europe mais ailleurs, et simplement quand on fait l'analyse du cycle de vie d'une technologie verte, eh bien on se rend compte que le coût écologique et les émissions de gaz à effet de serre sont réelles, et ça il faut bien le regarder en face.
Pour vous, Guillaume Pitron, c'est une certitude, les Japonais vont aller chercher ces métaux au fond des océans?
Nous irons chercher, l'humanité ira les chercher. C'est l'affaire de 20 à 30 ans, Yasuhiro Kato le disait tout à l'heure, ça se fera. À quelle rapidité, on ne sait pas. Ça dépend de, est-ce que nous trouverons peut-être des gisements plus faciles à exploiter sur Terre. Ça dépend aussi du prix, ça dépend des technologies qui vont évoluer. Simplement, c'est le sens de l'histoire que nous allons toujours aller extraire davantage de richesses des océans. Et c'est ce qu'on appelle l'économie bleue. L'économie bleue, c'est la pêche, ce sont les croisières, mais c'est aussi l'extraction de ces métaux rares. C'est pour ça que le Japon et d'autres pays comme la France, eh bien, se rendent propriétaires, et ils ont des zones économiques exclusives qui permettent demain d'aller extraire des métaux dans les océans. Et oui, pour assouvir nos besoins de métaux rares pour cette transition énergétique, nous irons extraire des métaux dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je ne le sais, mais en tout cas, c'est une certitude que ça va se faire.
Malgré les contraintes technologiques, finalement, puisque à ces profondeurs, on a à faire face à beaucoup de problèmes, hein, de pression, par exemple.
C'est une course permanente entre l'épuisement des ressources et les technologies qui progressent. Donc, on va chercher des métaux dans des conditions toujours plus compliquées, à un coût énergétique et écologique toujours supplémentaire. Mais d'un autre côté, eh bien, le progrès technique fait que les technologies d'extraction évoluent. Elles sont plus efficientes, plus propres aussi. Et donc, voilà, nous sommes dans cette course-là, dans ce roman de Lewis Carroll.
Avec ce que vous décrivez, on a du mal à imaginer cette transition énergétique comme restant verte à l'avenir.
Rien n'est vert. C'est faux le mot vert, il faut vraiment se débarrasser de ce mot qui paradoxalement nous pollue l'esprit. Toute technologie est par essence quelque part sale, elle a un coût pour l'environnement. Et voilà, nous sommes en train d'aller jusque dans les océans, aller toujours repousser le domaine de la mine, de l'exploitation des écosystèmes, au nom d'une transition qui nous est présentée comme une transition sobre vers plus de sobriété. Vous voyez le paradoxe de cette transition énergétique? En fait, pour faire moins, mais en fait, il faut faire toujours plus et aller, comme les Japonais, jusque dans les océans.
Nathalie Dorwell, je vous voyais réagir au propos de Guillaume Pitron sur ce sujet.
Je partage tout à fait votre analyse, mais je ne suis absolument pas spécialiste ni des terres rares, ni des transitions vertes. Mais tout ce que vous dites, tout physicien est d'accord.
Oui. À la fois sur les contraintes,
oui.
Pour aller dans ces milieux
oui.
Extrêmement lointains. Merci beaucoup Guillaume Pitron. On peut rappeler le titre de cet ouvrage que vous avez publié en janvier, La guerre des métaux rares, c'est la face cachée de la transition énergétique et numérique. Et ce livre est sorti aux éditions Les Liens qui Hibèrent. Merci à vous et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le Nil, ce fleuve fascinant qui puise ses origines dans les hauts plateaux éthiopiens, eh bien le Nil commence à dévoiler ses secrets. Il serait vieux de 31 millions d'années. L'étude publiée la semaine dernière, menée par une équipe internationale de géologues, tente de retracer aujourd'hui les origines de ce fleuve bercé d'histoire. Difficile d'accès, lui aussi, les dépôts sédimentaires les plus anciens sont enterrés sous des milliers de mètres du delta du Nil. Jusqu'à présent, eh bien seule une compagnie pétrolière égyptienne accédait aux informations tirées de leurs profonds forages. L'analyse des échantillons sédimentaires révèle que les roches proviennent des hauts plateaux éthiopiens. Une découverte qui ouvre la voie à de nouveaux éléments sur l'histoire géologique de toute cette région d'Afrique. Un nouveau télescope s'envole pour traquer la vie sur d'autres planètes. D'ici un ou deux mois, le télescope spatial Kepler prendra fin avec à son compteur 2600 exoplanètes découvertes. Mais un nouveau chasseur d'exoplanètes est déjà sur le pas de tir du côté de la NASA. Il s'appelle TESS, le nouveau satellite missionné pour la découverte d'exoplanètes. Il prendra son envol ce soir à bord de la fusée Falcon 9 sur la base spatiale de Cap Canaveral en Floride. TESS n'aura pas exactement la même mission que Kepler. En tournant autour de la Terre à l'aide de quatre caméras, elle observera 85% du ciel en se concentrant concentrant sur les plus petites et plus sombres étoiles, les naines rouges et froides. Très présentes dans notre galaxie, les planètes en orbite autour de ces étoiles sont relativement proches, moins de 300 années-lumière, et permettront aux scientifiques de mieux déterminer leur composition. Nathalie Durel, un petit mot sur le départ de Tess. Est-ce qu'on en attend des choses importantes pour votre communauté?
Sûrement, mais je suis sûre que Jean-Pierre Lassota en sait plus que moi sur le sujet.
Alors Jean-Pierre Lassota,
certainement, sinon plus, c'est pas ma spécialité.
Mais je suis
normalement venu parler d'ondes gravitationnelles, hein, mais je suis pas préparé. Non, mais je suis astronome, donc, et je connais un peu le sujet. On s'attend surtout, si je me rappelle bien, à un nombre très supérieur de planètes, oui, qui seront découvertes, et aussi un nombre important de planètes qui ont la masse de la Terre,
voilà,
ou même un peu plus petite, ou plus, surtout un peu plus grande.
C'est ça.
Évidemment, on s'attend à trouver une Terre avec
des grandes similitudes à la nôtre, hein.
France Inter, par exemple,
voilà,
et votre émission. Et évidemment, c'est pas comme ça qu'on pourra le découvrir, mais il y a un télescope spécial qui devait être lancé il y a 15 ans, qui va être lancé, encore retardé, en 2020, le GWST, qui pourra prendre des spectres, qui pourra voir les atmosphères de ces terres et voir si, pas si la vie est possible, mais s'il y a de l'oxygène, si les conditions, ouais, sont possibles.
On comprend que tout ça est bien important, en tout cas, et Tess décollera donc ce soir depuis la Floride. Et puis on termine avec la tortue punk d'Australie qui est menacée d'extinction. Une coquille lisse s'est profilée, des algues vertes sur sa tête, digne d'une chevelure de punk. L'Isor macrurus a rejoint la triste liste des espèces menacées. Habitante de la rivière Murray dans le Queensland en Australie, elle est dotée d'un étonnant système respiratoire dit cloacal ventilator, ce qui en d'autres termes veut dire qu'elle respire par la et qu'elle peut vivre sous l'eau pendant des jours. Créature docile, cette tortue est devenue un animal de compagnie braconné depuis les années 70. Elle ne manque pourtant pas de prédateurs dans son milieu sauvage, à quoi s'ajoute la transformation de son habitat qui participe de sa fragilisation.